With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Bibi binge audio.
Je sais pas si j'arrête pas de penser à manger en ce moment.
Ah, c'est le stress peut-être, non ?
Je pense. Je suis en train de me dire, j'espère qu'on aura quelque chose à manger dans l'avion.
Mais oui, quand on arrive, normalement on a dîner. On a un dîner et avant d'arriver à la réunion, on a un petit déjeuner.
Mais non, mais en ce moment, je me demande si je suis pas de la boulimie tellement je suis stressée. Ça.
Bah, c'est normal. Hein. Ah, mais là, je pense que tu vas être bien.
Bah oui.
Et je pense que, je sais que 3 semaines c'est long pour ta maman, mais 3 semaines pour toi, je trouve que c'est bien. Mmh. Tu auras le temps de vraiment t'imprégner.
C'est elle qui trouve que vraiment c'est long 3 semaines, mais ça va passer, tout passe vite. Tout passe vite. Quoi.
L'enfant déraciné. Une série de Sarah Vildeuil réalisée par Pauline Lagache. Épisode 3.
C'est ce que j'ai envie de me faire à la réunion, c'est j'aimerais bien me faire tatouer un petit gecko, tu sais, un petit lézard. Mais bon, est-ce que les tatouages sont plus chers, je ne sais pas.
Dans quelques heures, Christine et moi on part pour l'île de la Réunion. C'est la première fois qu'elle fait un voyage aussi long, 11 heures de vol. Enfin, bien sûr, elle l'a déjà fait une fois, mais elle ne s'en souvient pas.
Alors, Christine, là, on est à Orly, on est à quelques heures du vol. Comment tu te sens ?
En même temps, excitée par l'île. Enfin, j'ai hâte, en fait, de mettre mon premier pied sur l'île de la Réunion. Mais il y a un petit peu l'angoisse du voyage, la longueur du voyage. Mais je pense que ça devrait bien se passer.
J'étais pas censée être là, dans cet aéroport à côté d'elle. Tout s'est passé très vite depuis notre rencontre. Au fil des échanges, j'ai appris qu'elle avait prévu de partir. Un voyage planifié depuis des mois par la FED, la Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'outre-mer. Alors, à la dernière minute, j'ai voulu me greffer. Je sais pas si ça rassure Christine de savoir que je fais partie de cette aventure, mais elle a tout de suite accepté que je l'accompagne.
Bon, et ta famille sur l'île, est-ce qu'ils t'ont déjà parlé ?
Mon frère vient de m'appeler pour me demander si c'est bon, j'étais arrivée à Orly, tout bien. Alors je dis oui. Et puis après, j'ai eu maman aussi, pas longtemps, qui a hâte de me voir. Enfin, j'étais très contente de les avoir tous les deux au téléphone. Voilà.
Madame, monsieur, bienvenue à bord d'Air France sur ce Boeing 777-300 à destination de la Réunion.
Christine n'oubliera jamais la toute première fois qu'elle a appelé sa mère. C'était il y a 9 mois. Avant de se retrouver dans cet avion, quand elle a récupéré son dossier. Elle a trouvé son numéro très simplement. Son nom et son prénom étaient là, dans l'annuaire. Mais quoi lui dire ? Comment se présenter ? Pour lui demander quoi ? Et puis pourquoi maintenant ?
Mon pied la suit maintenant.
J'ai zappé le décalage horaire, j'ai téléphoné, il était 23h30, je crois, à la réunion, coup ma mère, elle a décroché, je pensais, je savais même pas que c'était elle vraiment, je ne savais pas si elle avait fait le bon numéro, mais bon, c'était une petite femme, assez, j'ai eu l'impression que c'était une petite femme fragile au bout du fil, et qui me répond, oui, et finalement, je dis oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler, donc je dis son nom et tout, et puis elle me dit oui, et puis après elle me dit... Vous êtes qui ? Puis je voyais qu'elle répond deux fois vous êtes qui ? Et je savais pas trop quoi dire, je savais pas comment l'annoncer. Puis tout à coup, je ne sais pas pourquoi, ça, elle a raccroché.
Le premier appel est un échec. Mais Christine est résiliente. Elle sait que sa mère a eu deux autres enfants, deux fils. Elle l'a appris dans son dossier. Alors elle reprend l'annuaire et tente d'en contacter un.
Je l'appelle, je dis oui, bonjour, je m'appelle Christine, je pense que nous avons la même maman. Et au bout du fil, oh Christine, oh là là, bah, y en a une qui va être contente. J'hallucinais comment il me parlait, lui, je me disais, mais il avait même pas l'air surpris plus que ça. Cette conversation était improbable. C'est de tant d'années plus tard, on se connaît même pas. Je reviens toujours pas de cette conversation, quoi. Je me dis, mais tellement facile de parler avec lui, quoi. Et encore, j'ai envie de vous dire, plus facile de parler avec mon frère qu'avec ma maman, finalement. Quand j'ai eu ma mère au téléphone, bon, elle avait une petite voix. Je sentais qu'il y avait de la méfiance, quand même, un peu, vers elle, ce qui est normal. En même temps, elle était contente, je me souviens, mais on n'a pas trop parlé, en fait. Parce que j'ai juste dit, bah, c'est Christine. Elle parlait pas beaucoup au début. La conversation est venue au fur et à mesure après des coups de fil. Il y avait un petit malaise, c'était pas ça. Mais de toute façon, c'est pas évident pour elle. Je ne m'aimais même pas à sa place. Je me dis tant d'années plus tard aussi d'avoir sa fille qu'elle a cherchée depuis tant d'années.
Moi, quand j'ai eu sa maman au téléphone, je l'ai eu qu'une fois. Je lui ai dit, vous savez, Christine a un cœur assez gros pour avoir deux mamans.
Est-ce que je vais l'appeler maman ou est-ce que je vais l'appeler par son prénom ? J'ai pas réussi à m'y faire. Je me dis non, j'arriverai pas à l'appeler par son prénom. Tant pis, ça sera maman. J'ai quand même demandé à maman ici si ça la dérangeait que je l'appelle maman, parce que c'est quand même quelque chose. Hein. Au début, elle m'a dit peut-être par son prénom. Au début aussi, elle me disait ça. Et puis, ben, ça s'est fait vraiment naturellement. Je l'ai appelée maman assez rapidement.
Christine apprend qu'elle est la fille aînée de sa mère biologique. Elle découvre aussi que lorsqu'elle est partie, un de ses frères était déjà né. Mais lui est resté.
Vous disiez que votre maman, donc vous étiez son aînée, qui avait un autre enfant. Est-ce que vous savez pourquoi vous n'êtes pas partis tous les deux ? Pourquoi vous seulement ?
Ben, je me suis posé la question, hein, bien évidemment. Mais je me dis, après, avec l'histoire qui fait que souvent... Ben, je ne sais pas, hein, ça c'est vraiment quelque chose que je me dis. Je ne sais pas du tout hein, pourquoi. Je me suis dit peut-être que les garçons étaient censés peut-être plus facilement aider dans la famille. Pour des travaux agricoles ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit ça. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont préféré la petite fille doit s'en aller et puis faire des études et plutôt que... Voilà, je pense que c'est... Mais je ne sais pas si c'est ça. Vraiment, c'est quelque chose que je sais pas.
Mesdames, messieurs, nous commençons notre descente vers la Réunion. Veuillez regagner votre siège. Vos bagages à main vont être rangés dans les coffres.
Je me demande comment Christine se sent. Si proche du but, à quelques minutes de l'atterrissage. Vue de l'extérieur, elle n'a pas trop l'air stressée. Je sais que c'est une posture de façade, mais je la trouve impressionnante. 1000 questions me viennent en tête, et à elle aussi forcément. Est-ce qu'elle va se sentir chez elle ? Comment ça va se passer ce retour dans son pays natal ? Est-ce qu'elle ne va pas être déçue ? Comment ça va se passer avec sa mère ?
Bah, j'ai hâte, j'ai trop hâte. J'ai hâte de poser la première fois mon pied sur mon île native. Donc ouais, j'ai hâte, j'ai très hâte là. Là, je poule. En plus, ils ont annoncé qu'il faisait 27 degrés, donc voilà. Ouais, j'ai hâte.
Ciel bleu là et gris tout là-bas. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de
Bah, c'est énorme, j'ai du mal à réaliser, franchement. J'ai du mal à réaliser que.
Nous vous remercions d'avoir voyagé avec
vous. Que, ben ouais, 44 ans plus tard, quand même, je me remets les pieds sur mon île.
Un excellent voyage si vous êtes mon correspondant.
Ça fait bizarre quand même, j'avoue.
La voix que vous entendez, un peu autoritaire, c'est celle de Valérie Andanson, la porte-parole de la FED. Elle aussi, c'est une enfant de la Creuse. Elle pilote ce projet depuis des mois, et du coup, forcément, elle est un peu stressée.
On va sortir tous ensemble, et on se retrouve tous à la statue pour faire un débriefing rapide. Hein, d'accord ? Mais il faut qu'on sorte tous ensemble, parce qu'il y a les médias qui nous attendent, là.
Ce voyage est un événement pour la FED. Car c'est la première fois qu'elle organise un déplacement ici à La Réunion avec une quarantaine d'enfants de la Creuse. Du coup, les médias sont au rendez-vous. Radio, presse écrite, télé.
Mais heureusement, là, je me suis dit, j'ai bien fait.
Dans le groupe, Christine est une des plus jeunes. Je sens un mélange d'euphorie mêlé d'impatience qui se dégage chez tous ces exilés, heureux d'être arrivés après 11 heures de vol. Ce périple, qu'on pourrait qualifier de pèlerinage, est un moment symbolique pour tous ces hommes et ces femmes qui, certes, avaient déjà fait le voyage jusqu'ici pour la plupart, mais pas dans ces conditions, pas de manière officielle. Christine, elle, est une des rares à n'y avoir jamais remis les pieds.
Christine, t'es où ?
Nous sommes en ligne.
Ah, que je vous explique, Christine, c'est la première fois qu'elle revient depuis son exil.
Pour laquelle tu...
Donc voilà, bienvenue.
On passe la connaissance.
Nous sommes chez nous, enfin. Oui.
En les regardant, ces hommes et ces femmes de 50, 60, parfois 70 ans, qui sont partis, qui ont tout construit ailleurs, je me demande. Est-ce qu'ils se sentent vraiment chez eux, là, maintenant ? Est-ce que c'est aussi simple, juste en foulant le sol, en quelques secondes, de se sentir chez soi ?
Depuis quel âge ?
Depuis mes 2 ans et demi.
Oh là, oui. Ah oui.
Ouais, ah ouais, ça fait bizarre.
Ça fait bizarre, hein ?
J'ai essayé de pas pleurer, heureusement, j'ai réussi.
Christine est quasiment la seule à être venue sans proche. Et moi, ben oui, je suis là, mais je suis journaliste. Je peux pas remplacer sa famille dans ce moment si particulier, dans cette quête initiatique qui la chamboulera, c'est sûr. Personne ne l'attend non plus à l'aéroport. C'était prévu, Christine et sa famille réunionnaise se sont mis d'accord pour éviter les retrouvailles devant les micros et les caméras. La honte et la culpabilité, c'est bien souvent ce qui reste de cette histoire des enfants de la Creuse. Pour la mère de Christine, hors de question de se montrer. Personne ne doit savoir ce qui s'est passé. De peur d'être la cible des commérages. Des ladis la fée, comme on dit ici. Il faudra attendre encore un peu pour que Christine rencontre les siens. De Paris jusqu'à Saint-Denis, on a pris 20 degrés dans la vue et l'air est humide. Le ciel est bleu, avec quelques nuages. On aperçoit au loin les reliefs typiques de l'île, ainsi qu'un flamboyant en fleurs. Des fleurs oranges magnifiques, comme à chaque fin d'année ici. Je vois bien que Christine n'est pas à l'aise. Elle est de nature plutôt solitaire et se retrouver là, dans ce voyage de groupe, bien loin de Brest et de sa routine rassurante, ça lui demande pas mal d'efforts. Elle préfère s'éloigner et se dirige vers la statue, au point de rendez-vous donné par Valérie.
Oh, mais c'est énorme, j'arrive pas à réaliser en fait, hein. J'arrive pas à réaliser ce qui m'arrive. Donc, et puis même cette statue, c'est. Ça fait bizarre. Je pensais pas que ça me ferait quelque chose de l'avoir. Que c'est notre histoire à tous, excusez-moi, désolée.
Cette statue, surélevée par un piédestal, ne mesure pas plus d'un mètre. Elle est en bronze et représente deux enfants. Une petite fille en robe avec des sandales a une valise à bout de bras. Elle crie, elle semble déchirée. Un jeune garçon tente de la consoler. L'air contrit, il a aussi une valise à ses pieds. Cette statue a été inaugurée en 2013, à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, pour commémorer les 50 ans des enfants de la Creuse. La trouve est là, en face de l'aéroport, où les gens arrivent, repartent, viennent pour quelques jours, pour travailler ou bien pour les vacances. C'est tout un symbole. Car il est difficile de la louper, cette statue. Sa présence témoigne d'une forme de reconnaissance, comme pour dire « On vous croit. On sait ce que vous avez vécu. » Cette statue ramène Christine des années en arrière. Peut-être qu'en voyant cette petite fille, elle s'est imaginée à l'époque, comme tous ses enfants, qui allaient devenir sans le savoir enfants de la Creuse, à cause de décisions politiques. Quand Christine a commencé à mener ses recherches, un nom est revenu, souvent. Celui de Michel Debré. En 63, l'ancien Premier ministre est élu député de La Réunion. Pourquoi un des pères de la Constitution de la Ve République, qui n'a aucun lien avec cette île, se retrouve député à 9000 km de Paris?
Je reviens d'une petite île de l'océan Indien, déserte il y a 3 siècles, et compte alors commencer à peupler des paysans et des artisans français.
Dès son élection, Michel Debré considère qu'il a une véritable mission de sauvetage de l'île. La Réunion connaît la misère, une surnatalité, et il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. Dans une lettre au général de Gaulle, Michel Debré écrit
« À l'expérience, les problèmes que pose l'avenir de l'île de la Réunion sont plus sérieux et plus graves que la description excellente
j'en avais l'intuition. Mais la réalité dépasse beaucoup ce que je pensais. Cette île pourrait connaître le castrisme s'il n'y avait certaines circonstances. »
Ce n'est pas l'avis de Paul Vergès, fondateur du Parti communiste réunionnais et opposant à Michel Debré.
Une crise sociale et une crise politique sont venues montrer la nécessité urgente d'en finir et le plus rapidement possible avec l'oppression coloniale.
Et puis la France vient de perdre l'Algérie. Debré va donc tout faire pour conserver ce qui reste de l'empire colonial français. Quand il devient député de La Réunion en 63, les transferts de mineurs ont déjà commencé depuis un an. Mais il va tout faire pour augmenter le nombre de départs d'enfants, en intégrant ce projet dans une institution qui lui tient beaucoup à cœur, le BUMIDOM. Le BUMIDOM, c'est le Bureau des Migrations des Départements d'Outre-mer, un organisme public, tout ce qu'il y a de plus officiel, dont l'objectif est d'inciter les jeunes adultes ultramarins à partir vivre dans l'Hexagone pour y travailler.
Ils sont arrivés un beau matin à la gare Saint-Lazare par un train comme celui-ci qui amène aujourd'hui, après 2 semaines de traversée, les passagers du paquebot Colombe.
C'est votre premier voyage en métropole ?
Oui, mon premier voyage.
Vous venez travailler ici ?
Oui, je suis venu au Sage, pour la FEA.
Vous allez rester à Paris ?
Oui, je veux dire.
Les enfants de la Creuse sont intégrés à ce dispositif, le plus souvent sous l'étiquette « autre formation ». Le BUMIDOM garantit des conditions meilleures. Mais pour beaucoup, c'est la douche froide. Ils ne font pas le métier qu'on leur a promis, ont des difficultés à s'intégrer et sont pour la plupart victimes de racisme.
Le pouvoir forme des travailleurs plus ou moins qualifiés, non pas pour la Réunion qui manque de cadres, mais pour les besoins de son économie en France, de son appareil administratif subalterne en France ou des services de sa bourgeoisie en France.
Paul Vergès, journal Trident,
novembre 1966.
L'immigration n'est pas une solution. C'est au surplus une sorte de déportation qui est de nature à alimenter le racisme en métropole.
Aimé Césaire, Le Monde, 7 décembre 1966.
Ont-ils tort ceux qui affirment que l'émigration actuellement pratiquée par le Bumidum est une traite de nègres à rebours?
Journal Témoignage, 5 août 1968.
T'as pas vu le marchand de fruits?
Ah ouais!
Là, les couleurs dedans.
On est dans le bus pour aller manger à Saint-Paul.
Ah, les Pareo!
Oh, génial! Ça, moi, j'en ai déjà pris deux, hein, je vais pas en acheter. Mais tiens, le tatou, tiens, tatou piercing.
Christine est comme une petite fille, jamais rassasiée de ce qu'elle voit autour d'elle.
On va acheter une barquette, hein, et on peut manger au bord, là. Y a pas de
les paysages, les couleurs, l'océan, tout lui semble incroyable.
Est-ce que je peux vous prendre en photo? Je suis touriste complètement, mais vous, en fait, je suis réunionnaise.
Je crois
qu'elle revient à 500 000.
Barquette à cher. Non, il faut que je parle. Attends. Là, c'est à cher de légumes. Attends, tu n'as pas commencé. Je vais prendre en photo.
La cuisine,
au soleil,
ça nous permet, Christine et moi, de nous rapprocher.
Mmh. Ah non, mais ça donne pas parce qu'il n'y a pas le soleil. Ah, là, il y a de la couleur.
De partager des repas, d'évoquer des souvenirs et donc de créer des liens plus forts.
Délicieux.
Ah ouais. Même les petits légumes qui sont autour aussi.
Un peu du piment.
Oui, regarde le gros pigeon, ils sont énormes ici.
Et c'est pas plus mal puisqu'on va passer 10 jours ensemble. Dans le même gîte, dans la même chambre, on sera ensemble jour et nuit.
Ah d'accord, ok. D'accord, merci. Merci.
Ok, super.
Non. Et le
reste,
c'est... Oh, monsieur, dame.
Et
il y a une serviette.
Super, merci beaucoup.
Chacune choisit son lit, on se répartit la place dans l'armoire et on découvre les lieux et nos nouveaux voisins. J'avoue que je ne me retrouve pas dans la position la plus confortable. Ce n'est pas un exercice auquel je suis habituée. Christine, c'est censé être une témoin, pas une copine. Je suis censée garder de la distance, tenter d'être au maximum objective. Et à la fois... C'est si rare d'être autant en immersion, d'être présente dans un moment aussi intime.
Ah, m'a déjà vu. Ah, ça m'étonnerait. Ah, c'est pas vrai, déjà?
Dans quelques minutes, après tous les coups de fil, tous les messages de ces derniers mois...
Non, mais c'est pas vrai, tu déconnes. Aux actualités, t'étais au courant?
C'était un direct.
Oh, ah, mais oui, merde.
C'est un grand jour pour Christine.
Ah non, génial. Je vais pouvoir me voir parce que... Bon, bah, et à tout à l'heure.
Un de ses frères vient la chercher.
Allez, bisous.
Christine va enfin rencontrer sa mère.
Voilà.
J'ai hâte que tu me racontes cette première rencontre.
Ouais, bah, ce soir. Je dirais ça ce soir. Et puis,
À suivre.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.